Que la paix du Seigneur soit avec vous, Pax Vobis. Et nous en sommes à la face B de la cassette, en train de nous interroger sur ce que veut dire le mot serviteur. Serviteur de qui et de quoi? Que doit-il livrer et à qui doit-il livrer? Et cela nous porte et nous force à prendre en considération deux points. Là où les personnes à qui on doit rendre service, quels sont leurs besoins, leurs désirs, leurs priorités, mais également en tenant compte de ce que l'Esprit du Seigneur leur et nous inspire. Donc, rendre service, être en état de service, il ne s'agit pas de nos désirs, nos besoins, nos priorités à nous, qui jaillissent de nous, mais des désirs, des besoins, des priorités que l'Esprit du Seigneur nous met au cœur pour ces personnes et leur met dans le cœur de nous demander. En les écoutant vraiment, nous confier ce que l'Esprit leur inspire à eux et elles, les bénéficiaires éventuels, nous et eux et elles, nous serons confirmés par la convergence de ces deux sources complémentaires d'inspiration. Alors, on voit bien que le service qu'ils réclament, service que nous avons le goût de rendre, c'est le même et qu'il vient d'une inspiration d'en haut et d'en bas. L'esprit de service est vraiment une caractéristique dominante du style 2. Il part de la base et remonte vers l'autorité, et il part de l'autorité et va vers la base. On écoute ensemble, autorité et les fidèles, on écoute ensemble les besoins et les désirs, les inspirations et les grâces. Et on cherche ensuite comment rendre service concrètement. Ce n'est donc pas du tout cuit, du prêt à porter, du préfabriqué en haut lieu et imposé à la base. Bien entendu, une autorité qui est insécure ou orgueilleuse ne peut pas vivre ce suspense perpétuel, cette remise en cause continue, qui est d'aller capter ce qui est la voix du Seigneur dans une remontée de bas en haut et en même temps exprimer la sienne. Si grands que soient nos charismes, nos missions, ces œuvres au Seigneur à travers nous, il faut toujours lui en rendre gloire, l'attribuer à sa puissance et à sa sainteté. On connaît ce bel exemple qui nous interpelle fort dans le livre des Nombres, chapitre 21 à 13, où Moïse et Aaron sont exclus de la terre promise. Ils avaient reçu les complaintes et les gémissements du peuple pour la ième fois. Ensuite, au verset 6, Moïse et Aaron soumettent le dossier au Seigneur. Verset 7, le Seigneur dit à Moïse, « Prends ton bâton et avec Aaron, ton frère, rassemble la communauté. Devant eux, vous parlerez au rocher et il donnera son eau. Tu feras jaillir pour eux l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et à ses troupeaux. » Donc, sous-entendu, Dieu les assure qu'il fera ce grand miracle à travers leur charisme de foi. Versets 9 et 10, ils obéissent, prennent le bâton et réunissent l'assemblée devant le rocher, et, attention, là, fort subtilement, donnant l'impression qu'ils, eux-mêmes, en avaient le pouvoir, ils disent, « Pourrons-nous, oui, nous, de ce rocher faire jaillir de l'eau. » Il s'en attribue le mérite et ne pense même pas à louer le Seigneur qui vient de leur en promettre le miracle. Il y a une autre interprétation que font les exégètes. On parle de l'erreur serait d'avoir frappé le rocher au lieu de lui parler, etc. Toutes sortes d'interprétations exégétiques. Personnellement, je retiendrai toutes ces interprétations car elles nous interpellent tous très fortement dans l'exercice de nos missions, charismes au ministère. Le premier défaut mignon courant, c'est d'oublier de lui rendre grâce et gloire. Pas seulement une fois pour toutes ou de temps à autre, mais au fur et à mesure. Sinon, l'appréciation et les compliments des autres nous montent à la tête et facilement alimentent notre gloire personnelle. Le deuxième défaut mignon, c'est de modifier les directives que le Seigneur juge bon de nous donner en tant que son instrument. Même si on ne comprend pas tout, il faut lui obéir jusque dans les détails. Et je peux vous confier qu'aux fondations, nous avons eu des douzaines et des douzaines de tests de ce genre. Et alors est tombée la sentence du Seigneur au verset 12. Puisque, en ne croyant pas en moi, vous n'avez pas manifesté ma sainteté devant les fils d'Israël, à cause de cela, vous ne mènerez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. Parce que Dieu seul sait avec certitude si on a ou si on n'a pas la foi requise. C'est le sort qui nous attend si nous succombons trop aisément aux deux péchés mignons que j'ai soulignés, en s'appropriant le mérite, le crédit de ce qui arrive, ou en modifiant délibérément et unilatéralement, ne serait-ce que très peu, son scénario. Pour vraiment vivre en esprit et état et habit de service, au service de l'esprit, il faut donc être vraiment à son écoute continue. Car c'est lui qui nous indique, au fur et à mesure, les livraisons à faire, à qui les faire, quand les faire, comment les faire, etc. On se promène donc, non pas avec son cellulaire, mais avec son ciel ouvert, toujours à l'écoute de ses bip-bip quand il nous signale les services à rendre. Ceux et celles qui n'ont pas ou une semblable mission ou l'habitude d'être eux-mêmes à son écoute ou l'aptitude à le capter directement vont généralement douter de celui et celle qui fait la livraison, vont même insinuer ou affirmer que cela ou tout cela ne vient pas de l'esprit. Habituellement, il ne faut pas s'en faire, leur jugement à notre sujet est largement conditionné par ce qu'ils peuvent ou veulent agréer, conditionné inconsciemment par leurs blessures que telles livraisons font revivre en surface ou revenir en surface. Ils et elles vous diront, des fois je sens que c'est du Seigneur, d'autres fois non, cela nous indique fort bien où le cœur est ouvert, prêt ou non. Rendre service, il n'y a pas de limite quand l'Esprit Saint nous le demande. Je donne un exemple, par exemple, chez un vrai de vrai communautaire. Le summum, ce n'est pas seulement d'être devenu apte à partager son vécu, ce qui est excellent, ça c'est la première grande victoire à remporter. Mais le vrai de vrai communautaire en état de service, c'est d'avoir acquis en plus l'aptitude à aller aider les autres à partager leur vécu. Donc, de prendre conscience de ce que le Seigneur opère en eux et d'être capable de leur faire réaliser, en prendre conscience, de l'exprimer et de l'apprécier. Ça, c'est la fine pointe de l'esprit de service sur le plan communautaire. Et ce n'est pas à confondre ça avec les techniques humaines d'interview, de psychanalyse, de dynamique de groupe. C'est l'esprit en nous qui tend la main à l'esprit en l'autre, afin qu'il puisse s'exprimer en mon frère et que celui-ci le repère. Dans une église où règne l'esprit de pouvoir, c'est l'autorité qui choisit à son gré les personnes ressources, autorisées à parler en son nom, sous-entendu comme elle et dans la même ligne. Toute la curie diocésaine, telle une chorale bien disciplinée, doit s'en tenir au répertoire du maestro. Tant mieux si les motions et les émotions de l'Esprit du Seigneur sont désirées, sollicitées, bien accueillies, captées, retransmises par cette chorale. Mais, on le sait, l'Esprit Saint n'est pas tenu de suivre tout le labyrinthe de nos structures ecclésiastiques, souvent lourdes, compliquées et encombrées. L'Esprit Saint s'est réservé le droit de souffler où c'est calme, simple, saint, S-A-I-N, et saint, S-A-I-N-T. Et c'est pourquoi il va souvent frapper à la porte des petits, des tout-petits devant Dieu, dans le diocèse, considérés comme des sans-voix, V-O-I-X, et sans-voix, V-O-I-E, en Église, n'ayant souvent ni titre, ni diplôme, ni fonction. Ce vaste réservoir, hélas, n'est pas branché sur l'aqueduc officiel diocésain. N'est donc pas ressourçant pour les personnes dites ressources pour les autres. Et enfin, donnons un autre exemple d'esprit de service, ce que j'appellerais coup de crosse ou un coup de cœur. Dans le style 1, règle générale, lorsqu'on découvre qu'un fidèle, un laïc ou un prêtre, est fautif, ou semble l'être par rapport soit à une loi ecclésiastique, soit à une juridiction de l'autorité, on a tendance à intervenir, oralement ou par écrit, pour prendre la personne en défaut, lui pointer sa faute, lui reprocher son acte, et le mettre en demeure. À ce moment, on fait fi souvent des intentions qui ont joué, des circonstances particulières, des bons effets possibles, car on ne s'est pas donné la peine de s'y intéresser et parfois même de vérifier avant d'intervenir. Ça, en langage ecclésiastique courant, ça s'appelle un coup de crosse de la part de l'évêque. Affirmer son autorité, son esprit de pouvoir, avant de savoir. Alors que dans le style 2, imprégné d'esprit de service, on part plutôt de la personne en question. Et par amour fraternel et en esprit de non de pouvoir mais de service, on s'intéresse d'abord à ce qui est bon et valable, en contact direct avec l'intéressé. Puis, après cela seulement, si cela s'avère encore utile, opportun, urgent, on précise tout autre point de nature à améliorer, rectifier ou mettre en ordre la situation. L'autorité ne défend pas alors sa peau, son prestige, sa juridiction, mais démontre qu'elle fait autorité par son amour, son esprit de service, ses suggestions et son accompagnement auprès du fidèle en question. Passons au quatrième point, un exemple tiré de notre vécu, bien vécu aux fondations. Je dis toujours ça parce que vous savez que les enseignements sur le style 2 et tous ces enseignements, le Seigneur nous les a donnés, mais il a exigé que nous les mettions en pratique avant d'avoir la permission de les proclamer. Donc, ça nous donne l'occasion, en les proclamant à sa demande, de pouvoir confirmer que c'est praticable et pratiqué, que c'est faisable et que c'est bon et que ça donne à son vécu une grâce et un bonheur particulier. Les fondations, ben je l'ai dit dans l'enseignement cet avant-midi, mais rapidement je rappelle ce thème. Si on avait voulu fonctionner en esprit de pouvoir, nous aurions fort bien pu rassembler des effectifs considérables, multiplier les activités, intensifier la publicité, orchestrer le recrutement. Mais là n'était pas notre mission. Ce n'était pas une œuvre pour, ce n'était pas notre œuvre, c'était une œuvre du Seigneur. Pas en style 1, mais en style 2. Donc, une mission essentiellement de proclamation, d'accueil, et de proclamation après expérimentation. Nous avons voulu vivre le tout en esprit, état et service, et habit de service. Service à lui le Seigneur, et service pour lui à nos frères. Nous contentant de ne faire que ce que lui nous demandait et rien de plus. Si beau et prometteur que soient tous les projets qu'on nous a suggérés, moult initiatives dont on aurait eu le goût, des urgences qui nous crevaient les yeux, mais nous n'avions aucune démangeaison de nous activer, de nous rendre plus imposants, de nous faire remarquer ou apprécier. Service et serviteur quelconque, se contentant de ne faire que ce qui est ou était demandé. Les fondations, d'ailleurs, de par leur constitution même, sont immunisées, pour ne pas dire allergiques, à toute forme d'esprit de pouvoir. Pour deux raisons évidentes dès le point de départ. La première, du côté des fondations. Comme vous le savez, elles ne constituent pas un groupement, une organisation, un mouvement. N'ont pas besoin de structure, de cadre, de hiérarchie, de membership. Donc, aucune domination, ni ad intra, ni ad extra. Et du côté des personnes qui les fréquentent, et vous en savez vous-même, vous en avez vous-même l'expérience, le leitmotiv constant, c'est la vraie de vraie liberté spirituelle des enfants de Dieu. Ceux et celles qui viennent y chercher un ou des services demeurent libres à 100% d'y venir ou d'en sortir, comme et quand et tant qu'ils veulent. Chose curieuse, on a vécu et vit en esprit de service, et les adversaires des fondations, sages et intelligents, nous redoutent comme si on avait un très grand pouvoir. Comment expliquer cette réaction? Sans doute par le fait que, sans connaître et sans vérifier, ils nous imputent par projection d'eux-mêmes les mêmes intentions de pouvoir. Or, notre mission nous empêche d'avoir la moindre ambition de ce côté-là. Mais la raison principale, au fin fond, est la suivante. Le fonctionnement en esprit de service. Même si l'exercice de l'autorité est en fait réduit à sa plus simple expression, aux fondations, il finit par faire plus autorité à la longue que l'esprit de pouvoir. En effet, l'esprit de service étant au service de l'esprit, a plus de poids, inspire plus de respect, a une meilleure écoute que l'autorité en fonction dans un régime d'esprit de pouvoir. En effet, les fidèles se méfient et se tiennent à distance de ceux et de celles qui ont autorité souvent et qui l'exercent en esprit de pouvoir, et ont tendance à se rapprocher, à s'identifier par ailleurs, à ceux et celles qui font autorité. Un exemple que nous pouvons donner également à même notre vécu, vous connaissez l'expression « chambrer un vin », une idée. On connaît l'expression « chambrer un vin », c'est-à-dire le mettre à la température de la pièce, le réchauffer légèrement. En gastronomie, on vient d'apporter un correctif à cette expression en soulignant que les maisons et les restaurants en Amérique du Nord, étant généralement bien chauffés en hiver, 20 degrés, 22 degrés, 23 degrés parfois, cette température est trop élevée pour bien chambrer des bons vins rouges. Qu'il faut donc trouver un moyen de faire descendre la température qui entoure la bouteille, même de vin rouge, à 18 ou 19 degrés maximum, soit par de la glace en couvrant de haut en bas la bouteille en question, soit en la déposant au réfrigérateur. C'est la même chose avec les idées. Les mêmes idées servies en divers milieux ont besoin d'être bien chambrées. Et en certains lieux, c'est trop froid ou frais. En d'autres, c'est trop chaud. En esprit de service, dans les livraisons que nous avons dû faire, des vins nouveaux et champagne du Seigneur, ce souci de bien chambrer les enseignements se fait en deux étapes. En premier lieu, je demande à l'Esprit du Seigneur de m'inspirer jusque dans les détails, les nuances, les précisions et même les précautions oratoires requises pour que ces vins nouveaux du Seigneur s'acclimatent bien aux divers milieux où ils vont circuler et que lui connaît, que moi je ne connais pas. En second lieu, dans la foi la plus pure, je compte sur l'Esprit du Seigneur pour aider chaque auditeur et chaque auditrice éventuelle de ces enseignements à compléter le tout, à bien chambrer en lui et elle l'idée ou l'affirmation au fur et à mesure de l'écoute. Et j'ai d'ailleurs de nombreuses et constantes preuves qu'il s'en charge volontiers. C'est indispensable quand on pense que ces mêmes enseignements, interpellations ou prophéties circulent présentement sur tous les continents, à travers le monde et l'Église. Le véritable esprit de service exige jusque-là. Exige que le livreur soit consciencieux, attentif à ce qu'il livre. Le petit livreur de journaux peut, si ça ne répond pas, les laisser à la porte. Mais le livreur de fleurs ou de crème glacée doit, lui, les protéger, aller les porter chez le voisin ou les rapporter au magasin. À travers notre vécu bien vécu aux fondations, on s'est demandé également comment on pouvait se prémunir ou se préserver contre toute tentation d'esprit de pouvoir. J'énumère rapidement certains moyens qui nous aident à rester dans cette disposition. D'abord, il faut se rappeler que dans une authentique œuvre du Seigneur, bien vécue, on est à l'abri de l'esprit de pouvoir. Car le pouvoir sur l'œuvre et dans l'œuvre, c'est le sien. Et notre rôle à nous consiste à nous mettre au service de son pouvoir, sans rien ajouter ou retrancher. Un deuxième moyen, c'est que l'autorité, quand elle doit s'exercer dans une œuvre du Seigneur, elle s'exerce avec le triptyque vérité, charité, liberté, ce qui nous protège ipso facto contre l'abus de pouvoir. Il faut continuellement rappeler aux gens d'exercer leur liberté. Un troisième moyen, c'est lorsqu'on a à déléguer pour des responsabilités à exercer, on donne aux gens non seulement l'autorité, mais tous les pouvoirs, afin qu'ils puissent prendre en toute liberté leur complète responsabilité. Autre moyen, je le dis souvent sous la forme d'une boutade, mais qui est sérieuse au fond, je dis aux gens, prenez vos responsabilités, vous avez le droit à 20% d'erreurs sans explication et 80% avec compréhension. Il faut également se soucier de respecter des diversités. Seulement, pas seulement parce qu'il faut les endurer, mais parce que c'est un bienfait, c'est un don de Dieu. Et enfin, il faut neutraliser au fur et à mesure tout culte possible de la personnalité, qui est souvent suscité et entretenu par le membership, qui souvent y voit une manière d'exprimer sa confiance et son ingratitude. Et vous le savez d'expérience, au cours des années, à maintes reprises, j'ai dit en souriant, « Quand je mourrai, vous marquerez sur l'épitaphe, il est mort et il n'a laissé aucun disciple. Il les a tous remis au Seigneur. » De façon à ce que tous ceux et celles qui nous fréquentent gardent leur entière liberté d'option, d'action, de comportement, de décision, et ne soient en aucune manière subjugué, attaché et retenu par le leadership. Passons maintenant au cinquième et dernier point. Condition pour être et demeurer vraiment en esprit, en état et en habit de service, au service de l'esprit. Nous allons voir rapidement qu'il faut être un vrai médiateur, être un spécialiste, un expert de l'écoute, être un produit du style 2, conscient de ce qu'il produit en nous, lui, le Seigneur, et pas seulement de ce qu'il produit par nous, et être un instrument docile. Il y en a qui, je mets cette parenthèse au point de départ, il y en a qui ont l'esprit de service, mais fonctionnent en état et en habit de pouvoir, à leur insu souvent. Et ça, c'est dû, la plupart du temps, à leur tempérament et à leur caractère, qui est naturellement directif, discipliné, méthodique. Alors, c'est une distinction que j'apporte rapidement entre parenthèses. La première condition, être un vrai médiateur. Le serviteur, selon l'Esprit du Seigneur, doit être un intermédiaire, un médiateur, un entremetteur au sens beau et bon du mot, entre l'Esprit qui l'inspire lui et la personne inspirée qui réclame un service, mais qui est inspirée elle aussi par ce même esprit. Le service vrai, celui qui se situe sur la ligne tracée entre, d'une part, le désir ou le besoin légitime d'une personne qui veut la gloire de Dieu et le salut des âmes, donc un fidèle, et d'autre part, ce qui semble le vouloir actuel de Dieu, de répondre à cette requête par un moyen ou un instrument de son choix. Je suis le serviteur au service des deux, le requérant, qui est le fidèle, et le bienfaiteur, qui est Dieu. Ma norme de service doit donc toujours répondre à cette double attente, aussi bien celle du fidèle que celle de Dieu. L'esprit de service, disons-le, a comme critère essentiel la gloire de Dieu, bien entendu, le bien de la personne, lequel bien doit se poursuivre dans la vérité, la charité, la liberté, par étapes, en tenant compte de son passé, conscient de son état actuel, dans la poursuite de l'idéal que Dieu lui réserve. Donc, une croissance progressive adaptée non pas à moi, mais à elle, auprès de qui je rends service. Dans la vérité, c'est-à-dire donc pour le bien de l'âme surtout, dans la charité, l'être humain ne croit pas du verbe « croître » et s'épanouit que dans l'amour vrai. Dans la liberté, le ou les biens ne deviennent valeurs que s'ils découvrent une relation entre leurs désirs et l'utilité qu'ils ont. N'oublions jamais que de pouvoir et savoir changer ses plans pour mieux les adapter aux circonstances, c'est une qualité. Ce n'est pas un défaut. C'est une force et non une faiblesse. Ça dénote un esprit de service au lieu d'un esprit de pouvoir. En effet, on doit ajuster ses plans continuellement aux besoins réels des gens auprès de qui on exerce l'autorité. Or, ces besoins sont variables et c'est normal. Et c'est à l'autorité de faire l'effort de s'adapter, d'amender et même de suspendre ses plans. Et voyez, c'est tout le contraire de ce qu'on rencontre dans l'esprit de pouvoir qui domine ou tente plutôt d'obliger les gens à entrer, veut pas, ou peut pas, dans leur plan jugé immuable. Car on a peur qu'en changeant ses plans, lorsqu'on exerce l'autorité, on a peur de perdre son prestige, son contrôle ou ses contrôles. Or, en fait, en réalité, on la perd, cette autorité, précisément en l'imposant de force, sans respecter les personnes et leurs besoins réels et actuels. Pour tenir en respect notre esprit de pouvoir qui va tenter de renaître, il faut toujours bien s'assurer que son esprit de service demeure bel et bien au service de l'esprit, c'est-à-dire sous son pouvoir. Il faut être en second lieu un spécialiste de l'écoute, un expert. On ne peut être vraiment un serviteur au sens du désir de Jésus que si, d'une part, on est à l'écoute assidue de l'esprit et, d'autre part, à l'écoute attentive des âmes auprès de qui on veut rendre service, car elles sont elles-mêmes inspirées par ce même esprit. Si l'une et l'autre de ces écoutes fait ou font défaut, on n'est pas et on n'est plus serviteur au sens voulu par Dieu. Donc l'esprit de service a deux points de repère constants, inséparables et complémentaires. Primo, ce que l'esprit inspire, directement à moi, de haut en bas en Église. Secondo, ce que l'esprit inspire directement aux âmes, de bas en haut en Église. Le vrai serviteur doit devenir un spécialiste de cette double écoute. En étant vraiment et d'abord au service de l'esprit, du pouvoir de l'esprit, on découvre très bien les besoins, les désirs, les états d'âme des autres, et donc les services qu'on pourrait leur rendre. On acquiert sous le pouvoir de l'esprit une plus grande perspicacité et efficacité à la fois. On ne se désarme pas pour rien. On est sûr, au contraire, d'animer et de combler l'âme. Il y a toute la différence au monde entre des charismes ou des ministères exercés en esprit de pouvoir et des charismes ou des ministères exercés en esprit de service. La troisième condition, il faut être un produit du style 2, un instrument conscient de ce que le Seigneur, au passage, produit, pas seulement à travers nous, mais en nous. Quand on passe du style 1 actuel au style 2 nouveau, on découvre assez vite que, d'une part, sous le style 1, on était davantage un maître d'œuvre, plutôt qu'un véritable instrument. C'était vraiment notre projet, notre initiative, notre effort, notre succès, bref, notre œuvre pour lui. Et d'autre part, on découvre, en optant pour le style 2 nouveau, ce que c'est d'être vraiment son instrument dans une œuvre du Seigneur. On devient l'œuvre du Seigneur qui devient son initiative sous sa mouvance du début à la fin. Mais attention, un nouveau et subtil piège nous guette. En effet, plus on le voit et on le sent à l'œuvre en nous et à travers nous, tout en sachant bien que c'est lui qui opère, il y a un danger subtil de s'intéresser de plus en plus à ce que l'instrument que nous sommes produit à l'extérieur de nous-mêmes, et de moins en moins à ce qui se produit dans l'instrument à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, à perdre de vue cette dimension importante. Nous connaissons tous ce texte de la Bible où une femme, voyant Jésus accomplir de nombreux miracles, s'exclame « Heureux, bienheureux le saint, c'est-à-dire l'instrument qui t'a porté. » Ce à quoi Jésus s'empresse de répliquer « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. » Et dans un commentaire sur ce texte de saint Matthieu, saint Augustin explique que la Vierge est surtout bienheureuse parce qu'elle a entendu et goûté la parole de Dieu et l'a gardée. Son âme a gardé la vérité plus que son sein n'a gardé la chair de Jésus. Ainsi pour nous, il est plus important de prendre conscience de ce qui se transforme et s'opère et se renouvelle en nous que de ce qui se passe par nous et est porté et mis au monde grâce à l'instrument que nous sommes. Ce qui importe le plus, ce n'est pas ce que l'instrument a produit, mais c'est ce qui s'est produit dans l'instrument. Et enfin, un instrument, être un instrument docile. Un véritable instrument ou instrumentiste du Seigneur dans le style 2 n'a qu'à exécuter fidèlement ce qui lui est demandé. Le Seigneur est à la fois le seul compositeur, seul chef d'orchestre de toutes ses œuvres ou symphonies spirituelles. C'est lui qui détermine les partitions où tel instrument sont mis en évidence ou d'autres sont plutôt discrets. C'est lui qui choisit les instrumentistes que nous sommes. Quand il nous choisit et nous appelle, il connaît fort bien nos aptitudes, notre genre, notre vocabulaire, notre mode d'expression. Je dois donc m'exécuter avec son inspiration, mais selon les traits de mon caractère, de ma culture, de mon vécu, de mon tempérament, de mon expérience. Peu importe si cela plaît ou non à telle ou telle catégorie d'auditeurs ou d'auditrices. Mais l'instrument doit sa fidélité entière, non pas, comme je viens de le dire à l'auditeur et l'auditrice, si mélomane qu'il ou qu'elle soit, mais au compositeur et au chef d'orchestre avec qui il doit collaborer pleinement. Et on me fait signe qu'il reste à peine quelques minutes. C'est le temps de tirer quelques conclusions. Mes frères et mes sœurs, c'est le jour et la nuit entre une mission exercée en esprit de pouvoir et en service, en esprit de service. Dans l'esprit de pouvoir, l'autorité est toujours sur le qui-vive, souvent menacée et menaçante. En esprit de service, l'autorité est la retransmission du vouloir et du jugement divin. La pratique de l'obéissance dans l'esprit de pouvoir apparaît souvent comme la soumission à une personne humaine. On a l'impression de limiter, de perdre sa liberté. Alors qu'en esprit de service, la pratique de l'obéissance rend notre liberté de plus en plus heureuse de se rallier à ce qui nous semble bien, bel et bien, son vouloir et son jugement. Sur le plan de l'éducation, c'est le jour et la nuit également. En esprit de pouvoir, l'éducation finit par être une fabrication, une production, un façonnage, un modelage, un dressage, alors qu'en esprit de service, l'éducation est une culture. Éduquer veut dire educere, sortir de, favoriser l'épanouissement et l'achèvement d'une personne. Et on pourrait comparer également le résultat final. En esprit de pouvoir, la personne a tendance à se sentir écrasée et préfère se laisser bien porter et devient dépendante, alors qu'en fait, en esprit de service, la personne prend confiance en elle, devient bien portante et autonome. Mes chers amis, que la grâce du Seigneur nous aide à comprendre ce défi de l'esprit de service au service de l'esprit. Amen. Alléluia.